Ah, ça marche, mais oui.
Un.
Merci d'avoir été patient à notre égard et nos excuses d'arriver légèrement en retard. Alors, young adults, vous êtes des young adults? Vous êtes des plus vieux que ça. Alors, la collection Young Adults, c'est pour en parler. Autour de moi, il y a à l'extrême gauche Estelle Faye, qui vient du monde du théâtre et du cinéma et qui a donné ces derniers temps deux romans, La dernière lame au pré au clair et Porcelaine au mouton électrique. À ma droite, Marie Pavlenko, la série des Saskia chez Scrineo, deux tomes parus le troisième fin d'année,
octobre,
et La fille sortilège au prix au clair dans la collection Pandore, et une BD aussi qui est montrée là, allez, qui s'appelle We Are Family, et qui est dans un autre style, complètement. Karina Rosenfeld, ben je ne dois plus le dire puisque c'est la troisième fille, alors là il y a déjà beaucoup de livres, Le mystère Olfit chez La Talente, La quête des livres monde chez Intervista. C'est chez La Talente aussi, mais c'est commencé chez Intervista, ça a été repris chez La Talente. D'Oregon, trois tomes, et maintenant Phénix, Les cendres de l'oubli et le brasier des souvenirs, deux tomes chez Robert Laffont dans sa collection R. Alors, elle fait aussi du scénario de dessin animé américain, et elle a obtenu pas mal de prix dans sa courte mais fructueuse carrière. Et le barbu de droite, c'est Xavier Mauméjean, un écrivain qui aime bien les marges, qui a écrit de la science-fiction, presque de la fantasy, du fantastique, ce qui est aussi entre l'imaginaire et la réalité. On va citer Rosée de feu au Bélial, La reine des lumières chez Flammarion, Car je suis Légion, qui est paru chez Pocket, La Vénus anatomique, qui est au livre de poche, et puis Lilliputia, chez Calmant Lévy, et surtout American Gothic, qui est paru cette année chez Alma. Et puis c'est aussi un essayiste avec des études sur Sherlock Holmes, Hercule Poirot, dans les collections ad hoc de Des moutons électriques. Alors, young adult, est-ce que c'est... je vais faire une brève introduction à cela. Des collections naissent et existent depuis quelques années qui ont ce label un peu étrange de young adult. Alors on croit que c'est nouveau et on se demande, c'est le titre de cette table ronde, opération marketing ou demande de lecteurs. En fait, d'après des sites américains, ça existe depuis assez longtemps, cette littérature young adult. Et il paraît que le terme young adulthood a été employé pour la première fois en 1802, lorsque une femme de lettres anglaise, spécialiste de la littérature pour enfants, Sarah Trimmer, a distingué ce type de livre pour les 14 à 21 ans. Et les anglo-saxons disent que le générique young adult, dans nos domaines particulièrement, date de 1967. On dit que c'est à partir du roman The Outsiders, qui, je crois, n'est pas traduit en français, de Madame Hinton, que ce genre nouveau a été plus ou moins établi. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un roman young adulte? Ça s'adresse à qui? Aux ados, 14-21 ans. C'est un roman d'apprentissage. Il y a un héros adolescent ou une héroïne adolescente, 16-17 ans, confronté à un espèce de type d'épreuve qui, une fois résolu, le mène dans l'âge adulte. Est-ce que ce genre de définition, Karina, ça vous botte?
Oula, je sais pas. C'est dans la collection R, le directeur de collection qui l'a créé chez Robert Laffont, qui a créé vraiment cette collection spécifiquement young adulte, lui, il la situe plutôt autour de 15-25 ans, donc un peu plus tard vers l'adulte. Donc je sais pas. Oui, les héros adolescents, oui, mais déjà, eux aussi sont des young adultes. C'est pas l'adolescent de... Parce qu'il y a des adolescents de 13 ans, il y a des adolescents de 14 ans, il y a des adolescents qui ont plutôt 18 ans. Donc, c'est pas les mêmes histoires, je pense. En tout cas, l'adolescent, plutôt, qui tend vers l'adulte aussi, je pense. Une littérature que je considère, mais comme la littérature, ce qu'on appelle jeunesse en général, qui est, moi je trouve que ça reste quand même ouvert à tous ceux qui ont envie de lire le livre sans catégoriser spécialement en disant « Ah, ça c'est du young adulte, je ne peux pas le lire, je ne suis pas dans la bonne tranche d'âge. » Donc voilà, j'ai plein d'adultes qui ont largement au-dessus de 25 ans qui lisent les romans young adultes. Alors ils sont restés certainement très jeunes dans leur tête, si on se reste collé à la définition. Et je suis toujours surprise aussi de découvrir des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui vont s'attaquer à ce genre de littérature aussi, en se disant « Ah bon, mais ça va, ça n'a pas été trop dur pour toi ?» Et en fait, non, ça va, ils sont lecteurs, ils comprennent. Donc pour moi, c'est une tendance, c'est une dénomination, mais il ne faut pas que ça enferme le livre dans une bulle dans laquelle on ne pourrait pas aller voir plus loin ce qui se passe.
Xavier, vous êtes directeur d'une collection Pandore au Prix Auclair qui s'adresse aux young adultes. Comment ça s'est passé? Quand on vous a demandé de créer cette collection, on vous a donné des contraintes, on vous a donné un cadre. Racontez-nous ça.
Alors, aucune contrainte, puisque la collection a été créée ici, d'ailleurs, aux Imaginales, à travers une rencontre, celle d'Isabelle Lerin, puis de Carola Strong du Pré-Auclair. Et en fait, je pense qu'on est parti d'une bonne base, c'est d'interroger les lecteurs que nous sommes, parce que éditeur-auteur, on est avant tout des lecteurs. Et on s'est dit... qu'est-ce qui justifierait, qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une collection pour les jeunes se justifie? Et en fait, c'est l'aventure et un savoir-faire. Savoir-faire qu'on trouve chez les auteurs francophones. C'est pour ça que c'est une collection young adulte francophone, c'est pas young adulte. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, parce que ça permettrait d'expliquer pourquoi on allait lancer Pandore, de revenir sur ce qu'est le phénomène young adulte, parce que, ça, vous l'avez très bien rappelé, il y a des dates, c'est une invention anglaise, les Anglais inventent la notion en même temps que l'enfance, mais en fait, il faut partir de l'objet. Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler, de quoi on parle quand on parle young adulte aujourd'hui? Alors, je ne vais pas être long, hein. Mais en fait, c'est pas un coup d'éditeur, ce n'est pas un coup de libraire, c'est un phénomène qui vient du lectorat, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le phénomène a d'abord existé en soi, avant d'être nommé, suivi, repris par les éditeurs. Et ce phénomène, c'est le fait que des livres, peut-être tort, hein, mais c'est mon analyse, c'est le fait que des livres soit lu par tous les âges du lectorat. Et en fait, Young Adult touche aussi les tranches du quatrième âge, etc. C'est-à-dire qu'avant, les livres de jeunesse étaient des livres littéralement de jeunes. Par exemple, les parents pouvaient lire Le Club des Cinq à haute voix pour leurs enfants, ils ne s'impliquaient pas. C'était un geste, le fait de raconter l'histoire, mais il n'y avait pas d'intérêt. Il y avait comme ça, bien sûr, quelques exceptions, comme la comtesse de Ségur, etc. Mais en tout cas, en France, il y avait vraiment un cloisonnement entre la littérature pour les enfants et la littérature pour les autres générations. Bon. Et en France, et je parle du phénomène français, le young adult en tant que phénomène en France, il a été compris tard avec des ouvrages hors normes, comme Harry Potter ou Twilight, qui font que toutes les générations lisent ces livres par plaisir, non pas par devoir, non pas pour savoir qu'est-ce que les jeunes lisent, qu'est-ce que ma fille lit, etc., mais par plaisir. Et je crois que le phénomène young adult tel qu'il se vit en France n'est pas le phénomène young adult tel qu'il existe, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où il y a déjà, historiquement, depuis des décennies, des livres fédérateurs entre toutes les générations, comme par exemple Peter Pan pour les Anglais ou Le Magicien d'Oz pour les Américains. Nous vivons une certaine approche française du young adulte qui est très particulière ici. D'où une collection, Pandore, qui abordait ce phénomène en tenant compte de cette particularité française.
Et qui donc n'éditera que des Français.
Francophones.
Francophones.
Des francophones. On reçoit, par exemple, des très bons textes du Québec en ce moment, des choses très intéressantes. Mais au risque de répéter, je pense que le phénomène young adult n'est pas un phénomène universel, c'est un phénomène global qu'on trouve partout, mais qui est décliné différemment. Et le cloisonnement strict, rigide de la France fait qu'il a une tonalité, ce young adult, qui n'est pas vécu pareil en Amérique ou en Angleterre, par exemple. C'est une première qu'en France, toutes les générations du lectorat français puissent aimer les mêmes livres.
Marie, quand on a des idées pour décrire un monde comme celui de Saskia, ou plutôt des personnages comme Saskia, et puis Erin dans la fille sortilège, est-ce qu'on dit on va écrire pour des young adultes, ou bien après avoir écrit, on se dit, bah, tiens, ça irait bien dans cette collection? Comment ça fonctionne?
Alors, je crois que je vais répondre à l'envers à ta question, en fait. Pour moi, le young adult, il se définit essentiellement, c'est un truc très protéiforme, effectivement, ça dépend. Et peut-être, enfin, moi, je ne suis pas persuadée que ça dépend de la culture, en tout cas du lectorat. Après, le regard qu'on porte sur lui est effectivement différent, je pense. Pour moi, ça se définit d'abord par l'âge du héros. C'est-à-dire qu'un bouquin dont le héros a 80 ans, j'ai un peu du mal à me le représenter comme un bouquin de young adulte. Parce qu'en fait, l'âge de l'adolescence, ça peut être un grand ado, bien sûr, mais c'est qu'il est celui du changement, de la découverte de soi, bien sûr, et aussi de la métaphore. En fait, ça a une très grosse portée métaphorique. Et pour moi, le young adult, c'est aussi ça. Et c'est la métaphore qui résonne ensuite avec un lectorat plus adulte, parce qu'il se reconnaît dedans, parce qu'il est passé par là. Voilà. Et je pense qu'il y a énormément de bouquins, par exemple, qui sont... Alors, évidemment, quand c'est réussi, c'est assez subtil, hein, mais il y a un monde, il y a un univers, il y a plein de choses, il y a de la magie, etc. Mais il y a aussi des métaphores, notamment, je pense, vraiment, des métaphores sur la sexualisation, c'est-à-dire comment on devient femme, comment on devient un homme, etc. Je pense que c'est un truc très, très fort. Et puis aussi sur la famille, sur se comporter par rapport à ses parents, etc. Donc moi, quand j'écris, je pense pas forcément à ça, mais c'est vrai que les héroïnes que je travaille jusqu'à présent, bah, elles sont dans ce passage à l'âge adulte et dans la transformation, dans la métamorphose. On en avait déjà parlé en fait avec Karina, et je pense que c'est vraiment un truc très constitutif de cette littérature-là. Et si elle est aussi présente dans la littérature de l'imaginaire, bah, c'est parce que la littérature de l'imaginaire, justement, c'est la métaphore à la base. C'est-à-dire qu'on invente plein de choses pour raisonner avec notre monde d'aujourd'hui et ce qu'on vit de façon très terre-à-terre ici, quoi.
Estelle, votre premier roman est paru dans cette collection, Pandore, dont on vient de parler. Alors, c'est une commande, vous l'avez proposée, comment ça se déroulait?
Bah alors, comme beaucoup de choses, visiblement, dans l'imaginaire français, c'est un roman qui est né ici, aux Imaginales, voilà. Et où donc Xavier, ici présent, m'a parlé de son projet de collection, et on a commencé à parler d'un roman de fantaisie, donc qui irait dans cette collection-là, et c'est vraiment au fil de la discussion, l'univers est apparu. L'histoire est apparue et s'est mise en place vraiment naturellement. Comme quand on raconte une histoire avec... j'en sais rien. Si, quand on raconte des histoires avec des potes, avec ses cousins, avec son petit frère. Et que l'histoire se met en place un peu toute seule. Parce qu'elle est là, parce qu'elle doit arriver. Alors après, bien sûr, on la met en forme, on la retravaille. Mais c'est vraiment venu très naturellement. Et ça s'est mis en place, peu à peu, en suivant son chemin... absolument naturel, voilà. Donc il n'y a aucune histoire trouble et louche dessous.
Je ne pensais pas du tout à des histoires troubles et louches, évidemment. Pauvre Xavier. Et Estelle, en fait, c'est né comme ça, mais dans votre envie d'écrire, c'était dans ce genre de catégorie, vous vouliez écrire quelque chose.
Disons, un des premiers publics que j'ai eu, c'était vraiment... mes potes, mon petit frère et ses amis à lui, quand on était tous enfants, adolescents. Et une des personnes dont je suis encore très proche quand je mets en place des histoires, c'est ma cousine qui a 15 ans, c'est le monde dans lequel elle vit. Et c'est vrai que c'est un public auquel j'aime beaucoup parler. justement, j'aime bien sentir qu'il accroche à une histoire, sentir qu'il entre dans un univers, qu'il vit dans cet univers, qu'il s'approprie les personnages. C'est un public qui est sans concession aussi, parce qu'il ne va pas suivre un roman parce qu'on lui a dit que c'était bien ou parce qu'on lui a dit que c'était intelligent. C'est vraiment, l'histoire, elle fonctionne ou elle fonctionne pas, point, quoi. Les personnages, il y croit, il vit avec eux ou il y vit pas. Mais par contre, s'il y croit après, c'est un public qui va dessiner les personnages, qui va se les réapproprier, qui va leur inventer d'autres histoires, qui va les faire vivre pour lui. Donc quand le public y croit à mort. Et quand il y croit pas, c'est aussi net, quoi. C'est pas, ouais, mais quand même, là, il y a un super effort stylistique ou il y a une idée super précise. Non, non, c'est, ça fonctionne ou pas. Et c'est super immédiat. Et finalement, je vois les lecteurs adultes, plus âgés que je rencontre, ce qu'ils viennent chercher dans Young Adult, c'est ça. C'est une bonne histoire dans laquelle ils vont rentrer tout de suite. C'est des montagnes russes, c'est du train fantôme, il y a complètement cet aspect-là, quoi. C'est vraiment, on est à la foire et on va s'amuser un coup. Bon, s'amuser, ça peut être avec des grosses scènes de bataille bien sombres aussi. Mais en tout cas, on va vibrer, on va vivre des émotions et on va être là parce que l'histoire, elle est là pour nous. Et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est d'être là pour le lecteur, pour le public avant tout.
Belle profession de foi. Karina, Estelle a dit, les histoires arrivent. Les histoires vous arrivent, mais vous êtes bien obligé de les cadrer, ces histoires. Est-ce qu'il y a des ingrédients obligatoires quand on travaille dans la littérature pour jeunes adultes ?
Non.
Voilà, c'était ma réponse. Non, je trouve qu'enfin, en tout cas pour ma part, j'ai une liberté totale. J'écris l'histoire que j'ai envie d'écrire avec les personnages qui naissent au fur et à mesure que je vais leur donner vie, puis après ils prennent leur liberté et je les contrôle presque plus, hein. C'est ça qui devient vraiment intéressant. Voilà, c'est pas du tout, à aucun moment on m'a dit si tu écris cette histoire, il faudra qu'il y a ça, ça, ça et ça. C'est pas une recette, c'est pas une recette de cuisine où il faut tant d'œufs, tant de grammes de farine et là on est sûr d'avoir le gâteau parfait. C'est au contraire toutes ces différences de tous ces dosages qui vont créer des histoires différentes, des univers différents, et si on utilisait tous la même recette, on aurait à chaque fois le même livre. Donc au secours, non, pas d'ingrédients obligatoires, pas de recettes, pas de trucs tout faits. Cette liberté d'imaginaire qui nous permet d'aller le plus loin possible, d'explorer les limites de ce que nous, on peut proposer et des émotions qu'on a envie d'offrir. Je suis tout à fait d'accord avec Estelle sur le côté de ce don d'émotion, de ces montagnes russes, de ce qu'on a envie de faire vivre au lecteur. Après, comme elle dit, ça prend ou ça prend pas. Chacun ses goûts, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si on arrive à toucher déjà une partie de ces gens-là, on a réussi quelque chose de bien. Et moi, je n'ai jamais eu de directive. Voilà, j'ai Constance Joly-Girard qui est là, avec qui j'ai travaillé ma duologie de Phénix. C'est elle qui m'a corrigé mes manuscrits, qui m'a guidée tout au long de ce parcours. Et jamais, jamais, elle ne m'a dit « fais ci, fais ça ». Elle lisait mon texte, elle me dit « j'ai les poils, j'ai les frissons ». Et je me disais « si avec elle ça marche, c'est bon ». Et je n'ai eu aucune directive de personne pour écrire mes livres, jamais.
Xavier, aucune directive du directeur de collection ?
Surtout pas, ce serait tout gâché. Non, 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 non. Non, non, moi, c'est ça justement ce que dit Karina, ce que disent Estelle Marie. C'est un bon livre, ça va être le royaume du lieu commun. Hein. Mais un bon livre, c'est le livre d'un auteur. Et si on commence à bidouiller, à lever le capot, à dire tu devrais changer. Non, 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 non. Après, il peut y avoir des conseils. Après, il peut y avoir. Mais ce serait idiot. On attend d'un auteur qu'il écrive son histoire dans son univers. Si le deal est là, et à mon avis, il n'y a que celui-là qui est bon. C'est le seul possible. C'est le seul contrat de confiance, d'affection, de sérieux qu'on peut avoir à un auteur, c'est d'attendre de lui qu'il donne tout de lui. Tout à ce moment-là. C'est-à-dire que l'auteur donne à ce moment-là le meilleur roman qu'il pouvait écrire à ce moment-là. Pour lui, son meilleur roman selon ses critères à lui. Alors, ça peut être meilleure technique, ça peut être meilleur affectif, ça peut être. Mais est-ce que lui est heureux, est content ? On va pas commencer à. Non, 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 non. Et c'est pour ça que moi je trouve que cette table ronde elle est belle parce que c'est ça qu'il faut entendre, c'est ça, c'est des vrais auteurs qui parlent de leurs livres, puis voilà quoi, faut être simple des fois, mais c'est vrai. Oui,
tant mieux. Marie, vous avez parlé tout à l'heure d'identification, de passage, etc. Est-ce que ça veut dire, puisqu'on parlait aussi de ce que les adultes forment une grande partie de vos lecteurs. J'ai lu quelque part qu'une statistique américaine de l'année passée montrait que 55% des acquéreurs de young adultes aux États-Unis étaient des adultes de 30 à 44 ans, ce qui est quand même pas mal, c'est plus que la moitié. Et en fait, je ne sais plus ce que j'allais vous demander. Oui, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous, puisqu'on est lecteurs de ce genre de livres, on est tous des adolescents attardés?
Oui, je crois. Non, mais j'ai l'impression, après, bon, c'est très personnel, mais que quand on... D'ailleurs, quand on écrit et quand on lit de la littérature de l'imaginaire, en général, on reste très connecté au petit enfant qui sommeille en nous, quoi. C'est aussi une... Il y a quand même un lien avec l'enfance et donc avec l'adolescence. Donc... Ouais, c'est pas très long ma réponse, mais
moi, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà aussi casse-bonbon et pontifiant.
Heureusement, il ne l'est pas resté. Estelle, un roman young adult pour Pandore, un roman plus adulte pour Mouton électrique. Comment on fait le départ entre les deux?
Alors, en fait, je dirais pas que c'est forcément un roman plus adulte pour les moutons électriques. Pour les moutons électriques, c'est un conte qui est tout public. Et pour Pandore, c'est un roman young adulte. C'est, voilà, c'est pas encore pour moi... je pense écrire un roman adulte un jour, mais il reste à écrire et il n'est pas encore là. Donc en plus, je peux même pas répondre à la question. Et vraiment, disons, en gros, un roman young adulte pour Pandore, c'est à partir de 13-14 ans et puis jusqu'à, alors là... Voilà, jusqu'à 93 ans, du moins, ce que je sais. Et mon livre « Mouton électrique », c'est plus vraiment à partir de même 10 ans, s'ils peuvent lire la longueur, quoi. Et pareil, jusqu'à pas d'âge. C'est, voilà, donc c'est pas une question à laquelle je peux répondre vraiment. Désolée.
Non, mais on remarque en fin de compte que... Non, non, vous n'êtes pas nul, mais... que les livres, on les porte et qu'on voit bien où ils aboutissent, c'est tout. Et si ça convient à une collection, eh bien, tant mieux. Si ça convient à une autre, tant mieux aussi. Ce n'est pas... Vous ne semblez pas avoir... Ah, je vais écrire un young adult parce que j'ai un contrat pour 10 bouquins pour young adult, donc je dois me tenir à ce genre de critères. Je dois avoir une héroïne de tel et tel âge, dans tel et tel... Comment vous choisissez vos héroïnes, par exemple, ou vos héros, Marie?
Bah, je ne sais pas si c'est un choix, enfin, c'est une idée à la base, c'est-à-dire que, alors, bon, alors moi quand j'écris un bouquin, ça part toujours d'un personnage, et d'une image ou d'une caractéristique un peu, voilà, qui commence à un début de définition, on va dire. Erin, par exemple, j'ai ni pensé à un concept, ni pensé à une histoire au départ. Je me suis dit un jour, alors ça, comment ça m'est venu, je ne sais pas trop, mais je me suis dit, j'ai envie d'écrire l'histoire d'une fille qui déterre des cadavres. Voilà.
Et, tout cela voilà. Est très réjouissant.
Et qui en vit. Et je me suis dit, ouais, et en fait, ce serait sympa d'arriver à écrire une histoire où en fait le lecteur, il trouve ça un peu dégoûtant, quoi, et en même temps, bah, il l'aime bien, cette fille, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, si elle déterre des cadavres, ouais, aujourd'hui, c'est un peu cracra quand même. Donc, je vais faire de la fantaisie, puis je vais lui inventer un monde rien qu'à elle pour que quand elle déterre des cadavres, en fait, on puisse l'aimer, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le départ. Donc,
Et Karina, sur les héros, sur vos personnages principaux?
C'est un peu comme s'ils existaient déjà quelque part, et puis à un moment, ils toquent à la porte et disent, voilà, maintenant, je veux sortir. Il y a une espèce d'évidence, ils sont là et on va leur donner quelques limites au début. C'est une fille, c'est un garçon, tel âge, voilà dans quel cadre il vit, quelle époque, sur quel monde. Ça, c'est nous qui décidons et je trouve qu'ensuite, c'est eux qui décident de leur propre voie. Et donc, du coup, c'est comme des êtres vivants, hein. Ils font leur propre choix, ils suivent leur propre chemin et parfois, ils nous surprennent et on se dit « Ah non, mais j'avais pas du tout prévu ça quand j'ai eu l'idée ». Où est-ce que ça va mener? Et puis ça devient passionnant parce qu'on se dit, bah, allez, allons-y, allons voir où ça mène. Et c'est, à mon avis, c'est là où les personnages deviennent les plus riches et les plus passionnants parce qu'ils prennent leur indépendance et nous, on a juste à les suivre et à voir où ils vont aller. Et ça, je pense que quand il y a ce passage dans l'écriture, où au début on est encore très lié à eux parce qu'on leur donne la vie avec des mots, et il y a un moment où claque, ils se dépassent. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un moment où ça y est, je ne suis plus responsable d'eux, et ils s'en vont et ils font leur vie. Et j'adore ce moment-là, parce qu'il y a une vraie découverte, il y a une vraie aventure, et en fait, on devient comme le lecteur qui est aussi curieux de tourner les pages pour savoir comment on va continuer le livre. Nous, on a envie de continuer à écrire pour dire qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qui me réserve ce personnage ? Et c'est vrai que, comme le disait Marie, quand ils ont cette tranche d'âge un petit peu en bordure adolescence-adulte, il y a tous les champs du possible, toutes les routes peuvent être empruntées parce que rien n'est encore fixé, ils sont encore suffisamment jeunes pour ne pas se traîner des grosses casseroles qui vont les freiner et avoir toutes ces possibilités. Et là, on se dit, OK, où ça va partir dans ces millions de chemins qu'ils peuvent emprunter, lequel vont-ils choisir? Et c'est ce qui, moi, quand ça part comme ça, je trouve que c'est là où ça devient le plus passionnant.
Je ne suis pas écrivain, donc je suis toujours surpris d'entendre des écrivains haines dire « mes personnages m'échappent ». Vous êtes quand même le maître du jeu, Estelle.
Alors non, pas du tout. Sinon, c'est pas drôle déjà. Parce que si on savait tout à l'avance, ça serait prévisible. Et si on s'amusait pas à écrire nos romans, comment demander au lecteur après de s'amuser en les lisant, ça serait dur. Et vraiment, je rejoins entièrement Karina là-dessus. Et même moi, voilà, les personnages, ils sont là, ils existent. Oui, ils disent « je suis là, je suis dans ta tête et je veux sortir ». Et juste, quelque part, tout ce qui est bien dans le personnage, ça lui appartient. Et toutes les scories qui restent autour, tout ce qui peut être par moments pas trop réussi, ben ça, en fait, c'est ma faute, quoi. Voilà, donc c'est une conception un peu maso de l'écrivain, mais je... Voilà. Et si je peux me permettre, je rejoins vraiment Marie sur un point aussi, sur quelque chose qui est très rigolo à faire, et notamment dans le young adult, c'est vraiment prendre un perso ou une fille qui est assez difficile à faire aimer au lecteur, qui a une profession un peu bizarre, qui voilà, qui n'est pas quelqu'un que vous aimeriez forcément dans la vraie vie, et arriver à la faire aimer au lecteur et à la rendre touchante, attachante, ça c'est génial, quoi.
C'est chaque fois un défi, alors, Marie ?
Un défi, une souffrance. Moi, je suis vachement admirative quand j'entends Karina parler, parce que moi, je ne prends pas vraiment de plaisir à écrire. En fait, je préfère avoir fini. Voilà, donc c'est un peu l'accouchement qui dure des mois, quoi. Donc, mais en revanche, je trouve que ce qui est assez génial, effectivement, c'est que, enfin bon, il doit y avoir 10 milliards de façons de faire, mais c'est que ton personnage, tu peux en avoir une idée assez floue, et en réalité, il se construit dans l'action, et il a des réactions face aux obstacles ou face à ce qui lui arrive, et puis au bout d'un moment, il est forgé, et là, il trace sa route, quoi. C'est un petit peu comme ça que... Voilà.
On a parlé de dimension plaisir, identification, passage. La dimension humour, c'est aussi intéressant et important, non ? Il faut qu'il y ait, que ça soit agréable à lire, donc qu'il y ait des traits d'humour, etc. Xavier, comment ça se passe ? Tu imposes de l'humour dans les bouquins ?
Moi, je n'impose rien du tout. Ce serait d'ailleurs très très bien qu'au téléphone une voix glaciale dise « on ne se poile pas assez dans ton texte ». Ce serait très bien. Donc j'impose rien. Par contre, moi je reçois... Je reçois des textes, mais je savais, on savait ce qu'on faisait en faisant appel à des auteurs francophones, c'est justement ça. Il y a dans le young adult et dans le young adult actuel avec les auteurs d'aujourd'hui, il y a un vrai sens de la narration, de l'épisode, des intrigues, des aventures. Tu retrouves le vrai plaisir. Je parle du young adult hein, qui effectivement, comme ça a été dit plein de fois, touche les adultes. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve ce qu'on voulait souvent chercher dans les livres, qu'on ne trouvait plus en France. Parce que une fois que dans la littérature française, vous savez que votre voisine ne vous aimera pas et que vous devez refaire votre cuisine de 5 mètres carrés, le tout aux éditions de minuit, il n'y a plus rien en édition française. C'est la littérature, le nombrilisme, c'est le sport national ici. Or, on avait une tradition, Et moi, je suis ravi de retrouver, ouais, que tu dis l'humour, mais justement, ces valeurs sûres de la peur, de l'humour, de la séduction, des enjeux, mais traitées avec sincérité. Est-ce qu'elle va sauver le royaume? Est-ce qu'elle va comprendre cette espèce de complot qui est en train de pourrir ce qui, à l'origine, était une belle cité, pleine d'espoir, de s'attacher à une héroïne qui est maudite dès le début, puis on sait très bien que... Enfin, ce genre de choses. Et je trouve que le young adult est pas du tout ma collection. Je parle en tant que genre, hein, Karina, je parle évidemment de toi aussi. De ce mouvement qui est d'assurer au lecteur que vous allez retrouver des émotions, que vous allez rire, que vous allez passer un bon moment. Et ça, on l'a. Et on l'a chez les Français. Allez, maintenant, on se lève tous. On va non, mais autant le dire. Et puis, il y a autre chose aussi. Je déborde là, mais on lit le young adulte que j'aime beaucoup anglo-saxon. Hein. Je ne suis pas en train de parler contre. Je suis en train de parler pour ici. Mais on retrouve le plaisir de la langue, parce que là, on ne lit pas de la traduction. La traduction, ce n'est pas du français. La traduction, c'est la traduction. Là, on retrouve un plaisir de la langue, un plaisir de jouer avec les mots. Et tout ça fait que il y a une quasi-garantie dans le young adulte qu'on va passer un bon moment, que tu ne fais pas avoir.
Est-ce que... Question vache c'est pas dû aussi au fait, le fait que Pandore et beaucoup d'autres, Scrigno, etc., jouent le jeu des Français, c'est pas dû au fait du coût de l'achat de bouquins anglo-saxons et du coût de la traduction. Est-ce que les auteurs français ne bénéficient pas d'une conjoncture qui est difficile?
La réponse pour le Préau-Clair, elle est clairement non, ça n'a rien à voir, puisque le Préau-Clair fait la fantaisie anglo-saxonne. Donc nous, c'est vraiment, c'est pas un pari contre... ou dicté par des raisons économiques, c'est vraiment publier des auteurs français. Parce que par ailleurs, justement, il y a de la fantaisie anglo-saxonne, et pas des moindres en plus. Non, nous, c'est vraiment l'engagement d'une littérature d'évasion française.
Tant mieux pour les Français,
ouais,
pour
ouais,
les auteurs,
ouais,
parce
ouais,
que
ouais.
Grâce à cela émergent en effet des talents qui auraient pu peut-être rester dans l'ombre. Et tant mieux pour les gens qui sont autour de moi et pour d'autres qui existent aussi. Karina, puisque les young adultes passent, font le passage de l'état d'adolescent à l'état d'adulte, on doit parler de sexe aussi. Comment est-ce qu'on parle de sexe dans les collections young adultes?
Bon, on en parle. Hein. J'adore faire les réponses. Voilà. je ne sais pas, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi est-ce qu'on devrait se poser trop de questions? Ça reste quand même quelque chose de naturel, une étape par laquelle tout le monde finit par passer un jour avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, ça finit par arriver. C'est une préoccupation quand même des adolescents avec les batailles d'hormones qui existent. Moi, personnellement, dans le tome 2 de Phénix, c'est la première fois que j'ai écrit une scène de sexe. Parce qu'avant, surtout, mes personnages étaient souvent un peu trop jeunes pour... parce qu'après, on peut commencer très tôt, mais je veux dire, c'était pas le propos de l'histoire aussi. Hein. C'est pas... Je ne juge personne, je suis pas du tout en train de dire c'est maintenant qu'il faut le faire, et pas avant, et pas après. C'est juste que ça se prêtait pas quand on est dans une quête avec une enquête et qu'il y a des tas de trucs dans tous les sens, on n'est peut-être pas focalisé là-dessus absolument. Là, c'est une histoire d'amour que j'ai écrite, c'est une romance... qui exploite le thème du phénix, des amants éternels, etc. Donc je fais passer l'histoire principalement par l'émotion. Il y a très peu d'action, mais c'est un parti complètement pris. Pour moi, c'est un moment d'émotion pure. Et donc, il y a un moment, il fallait que ça arrive. Et là, c'est une scène qui, pour moi, a été complètement spontanée. C'est-à-dire que j'ai écrit tout d'une traite. Et en fait, on l'a pas retouché.
Oui, bien sûr, oui, 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 oui.
Je me suis demandé comment Karina allait se débrouiller de cette scène. J'ai été plus que heureusement surprise, c'est-à-dire qu'elle ménage à la fois la sensualité la précision, la précision des corps, enfin la précision de la libido, vraiment, on est vraiment dans une scène de sexe, hein, c'est pas édulcoré, et à la fois, elle parle à un public hein, qui n'est pas familier, qui découvre la sensualité en préservant le mystère. Mmh. Et c'était une conjonction des deux, quand on dit que c'est spontané, je veux bien croire, parce qu'il y a un flux comme ça, c'est un exercice d'équilibriste que je trouve remarquable.
Oui, j'ai essayé d'être sur. J'ai essayé à la fois d'être explicite, de dire voilà, ils font l'amour, hein, c'est pas juste des petites caresses, des bisous et tout. Il y a pénétration, ils sont là,
elle est sur
terre. Attention, hein. Mais, c'est à aucun moment je suis.
Et il y a de l'humour.
Mais à aucun moment je suis pas là pour décrire et là il l'a pris, il l'a retourné, c'est pas Fifty Shades of Grey, c'est pas voilà, ça reste toujours dans une espèce de douceur et de poésie, un moment qui j'espère est le plus joli possible pour que ce soit un bon moment pour les personnages et pour le lecteur aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment une scène, c'est un peu comme si elle était encore une fois là en moi et que comme je savais que j'allais devoir m'y frotter à un moment.
C'est le cas de le dire, pardon.
Mais je n'ai pas employé ce mot par hasard.
C'est désopilant.
Je pense que d'une certaine manière, elle avait commencé à se construire un peu inconsciemment dans ma tête. Et au moment où je me suis retrouvée là, plutôt que de me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'écrire? Est-ce que j'en fais trop, pas assez ?» Je me suis laissée aller à ce qui avait déjà été certainement préparé inconsciemment dans un coin de ma tête. Parce que voilà, plus j'avançais dans le texte, plus ce moment se rapprochait. Et du coup, vraiment, c'est sorti comme ça et on l'a pas, quasiment pas touché parce que je crois que justement, j'avais réussi, ouf, parfois, on y arrive à trouver l'équilibre. J'en étais très contente et j'étais contente aussi que Constance ne me propose pas de gros changements dessus parce que je me disais, voilà, là, elle est vraiment comme je le voulais. Donc, mais c'est... Là, je ne pense pas que ce soit à partir du moment où on fait les choses correctement. Je ne vois pas qu'il y a un problème absolu sur la sexualité qui fait partie de la vie de l'adolescent, de l'adulte et toutes ces choses-là. Enfin voilà, il ne faut pas faire croire que ça n'existe pas. Hein. Ce serait quand même hyper hypocrite. Hein.
Non, mais je remarque quand même que c'est ta première scène d'amour après la dizaine de bouquins que tu as écrits.
Ah oui, mais quand j'écris des bouquins qui s'adressent aux 8-10 ans, là, à mon avis, ça va pas. Quand je suis en zinco pour les 5e, 4e, je suis pas sûre que les profs de français auraient sélectionné le bouquin s'il y avait eu des grosses scènes de sexe pour les 5e. Donc, il faut choisir le bon moment aussi, le bon roman pour y arriver. En plus, je considère que même si dans cette histoire, c'était inévitable, je trouve que c'est pas tout le temps le moment dans toutes les histoires pour tous les personnages. Et on va pas mettre du sexe juste pour dire... Sur la couverture, attention, méga scène de sexe. Voilà, donc non.
Il y a d'autres bouquins pour ça.
Et puis voilà, il faut que ça s'y prête, il faut que le propos y soit, il faut que. C'est pas la peine de se forcer en disant ah là, mes ados, ça y est, là, ils ont les hormones en ébullition, allez, passe au lit direct, allons-y. Non, il y a des histoires où ça va naturellement dans ce sens-là, et des histoires où ça ne servirait absolument à rien, ni pour l'action, ni pour les personnages. Donc on va pas en faire à tout prix sous prétexte que c'est des ados qui sont à fond et tout. Non, ça va. Il faut savoir raison garder.
Marie, vous voulez donner une explication quelconque?
Non, c'est pas une explication, c'est que moi, dans Saskia, donc y a aussi une scène, mais que moi j'ai écrite vraiment, alors aussi à l'instinct et qui parle beaucoup, qui est charnel, qui parle de désir, qui parle d'odeur, qui parle de peau, qui parle de moiteur, donc. On comprend, et j'ai eu pas mal de filles de 12-13 ans qui sont vraiment sur le fil, qui sont venues me voir en salon. Et en fait, ils couchent ou pas? On n'est pas sûr. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a plein de moyens en fait de. Enfin voilà, une scène de sexe, elle peut avoir plusieurs couleurs, peut aussi des couleurs où quand t'as 10 ans, tu lis le livre et tu le trouves super et ça t'est un peu passé au-dessus. Et puis quand on a 14-15, t'as compris quoi. C'est aussi.
Xavier, comme Constance, tu crains ce genre de scène?
Non, pas du tout, d'autant que...
Blasé.
Oui, dans les grands souvenirs de réunion éditoriale, c'est Pastua qui était le plus cocasse. Je me souviens, je dirigeais un roman de Marianne Lecomte, et je me souviens m'entendre Enfin, je me souviens entendre le directeur éditorial me dire, mais enfin, il y a quand même un voleur qui se fait dévorer par les pores d'un eunuque. Et c'était surréaliste. Et j'ai dit, oui, mais enfin, c'est culturel. Et tout le monde, oh bon, c'est culturel.
Il reste 3-4 minutes. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à nos valeureux écrivains et éditeurs? Tout n'a pas été dit, j'en suis sûr. Tout est donc si remarquable.
Moi, j'aurais une question publique pour une fois.
Ah, voilà. On retourne la situation.
Est-ce que ça joue dans vos choix de librairie si un auteur est français ou anglo-saxon? Et je ne dis pas étranger, français ou anglo-saxon. Est-ce que ça peut jouer sur un choix de livre ou pas du tout? C'est juste le résumé, l'idée.
Non.
Oui.
Autre, bah,
si vous répondez en contrepartie dès ce soir sur le blog Pandore, il y a la rubrique « Qui couche avec qui ?» Laetitia prend déjà des notes, on vous le garantit.
Xavier vous donnera la clé pour entrer dans ce...
entre les deux, voilà.
Alors, ça vous intéresse ou non de savoir si c'est un français ou non? Ça joue?
Oui. Ça joue?
Oui, et pourquoi? Oui, mais vous pouvez attendre que les autres les découvrent, attendre 2-3 mois, c'est vite fait quand même sur les blogs, non? Oui, mademoiselle. Quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Oui. Oui.
Ah.
Mais je suis très souvent sur les salons, donc j'ai énormément d'occasions de rencontrer des auteurs, des jeunes auteurs dans les petites maisons, dans les maisons d'édition françaises, et discuter avec eux et de voir directement avec eux si le livre va me plaire ou pas, en fait, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ce que je pense avoir constaté en tant qu'auteur d'urban fantasy, c'est que moi j'écris dans des villes françaises. Quand j'écris mes récits, ça se passe en France, dans des villes que tout le monde connaît, Paris, Londres, Toulouse. Et j'ai l'impression en fait que ça fait moins rêver. Je me demande s'il n'y a pas. Pourtant, je mets du fantastique dedans, il y a le petit peuple, il y a les vampires, Mais j'ai l'impression que le fait que ce n'est pas Los Angeles, Atlanta, enfin des villes un peu comme ça, Saint-Pétersbourg, c'est français, on connaît. Bon, si c'est français, c'est à côté de chez nous, bah, tant pis, hein, c'est pouilleux, quoi.
Phoenix se passe dans le Var, et alors moi j'ai eu des tas de retours de gens qui étaient contents que ça se passe en France, qui étaient super, alors ceux qui habitent en plus dans la région que je décris, ils étaient super contents que ça se passe chez eux, et c'est, oh, c'est génial, pour une fois je peux vachement bien visualiser parce que c'est exactement le paysage que je vois quand je roule sur ces routes, etc. Et ceux qui au contraire connaissent pas forcément, quand je parle de la lavande, des champs, des vignes et tout ça, oh, ça fait du bien, et ça c'est vraiment, moi j'ai au contraire des retours super positifs sur ça. J'ai pas eu ce retour du tout. C'était plutôt positif, au contraire.
Je sais pas.
Si je peux me permettre.
Oui, Stéphane, bien sûr.
Parce que avant d'être auteur ou même de penser à être auteur, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, je faisais des mémoires à la Sorbonne et suite à un pari, je les ai faits sur la fantaisie française. Donc, non, j'aimais bien, je veux dire, hein, mais c'est voilà. Et donc, je me suis retrouvée face à des gens qui, évidemment, bah, avaient la réaction un peu que vous décrivez, c'est-à-dire, ils disaient, oui, je lis de la fantasy ou de la SF anglo-saxonne parce que je suis rassurée, je sais qu'ils savent faire. Alors après, moi, je leur mettais à lire les livres de fantasy française, voilà. Et finalement, ce qu'ils me disaient, c'est, ah ouais, mais ça, c'est vachement bien. Et puis, en creusant un peu, en fait, je m'apercevais qu'il y avait des gens, ce que je vais dire va être super polémique, donc désolée, mais que finalement, il y a une partie du lectorat que je voyais qui préféraient presque être déçus par de l'anglo-saxon un petit peu, ce qui leur arrivait souvent, plutôt que de tenter du français. Et il y avait quand même ce chemin à leur faire faire, et finalement ils disaient, ah, mais au moins en français, c'est toujours des gens qui écrivent quelque chose où il y a, comment dire, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a jamais, justement, ce qu'on voit dans cette table, c'est qu'il n'y a jamais un truc purement de commande. En tout cas, moi, j'en ai pas vu en français. C'est toujours un auteur qui a une raison de vous raconter une histoire, et une raison forte, une raison vraiment sincère. Et quoi qu'on en dise, ça fait vibrer vraiment cette littérature-là. Et les gens que je mettais à la fantaisie française, ils disaient « Ah, mais en fait, c'est ça. » Voilà, complètement. Et surtout qu'il y a évidemment des auteurs énormes en anglo-saxon, mais il y en a une partie qui, non, sont pas non plus à la hauteur de cette réputation-là par moment. S'il y a de tout. Et simplement, il faut passer cette barrière, et quand on la passe, on découvre d'autres univers, et c'est énorme, quoi. Voilà. Et c'était vraiment pure lectrice que je parle.
Merci Estelle, ben, ce sera le mot de la fin. On a déjà un peu dépassé l'heure, mais comme on a commencé légèrement en retard, merci à Estelle, Karina, Marie et Xavier. Merci à vous d'avoir été nombreux et attentifs. Eh bien, vous m'avez bien amusé.